Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag.
Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Baron Mag et de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Comme je vous avais promis il y a quelques mois, on va parler de plus en plus, pas seulement une intro plate que je faisais tout le temps. Qu'est-ce qui se passe, Baron Mag? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, on a un nouveau livre qui s'en vient. Que vous connaissez dans le temps comme recette de bière et industrie, il change de nom à Les Affaires Brassicoles / Boisson Québec. On a une bonne grosse section de qui rappelle la boisson, que ça a des séries, le vin, l'RTD, plein d'affaires qui sont intéressantes. Puis, bien sûr, la section Baron des Affaires Brassicoles, même moi je me trompe, on va avoir une grosse section d'affaires de plus en plus parce que c'est ça la grosse demande qu'on a nous autres. Puis, bien sûr, voir le guide des microbrasseries, tout le kit. Puis, aujourd'hui, je voulais parler avec quelqu'un, une gang que j'aime beaucoup parce que moi, personnellement, je suis dans une coopérative de médias. Je sais que les coopératives, c'est très intéressant. Puis, je voulais vraiment qu'on comprenne un peu plus de leur travail qu'ils font eux autres. Puis, ils viennent de lancer un frigo coop, que c'est quelque chose qui fait longtemps que le gosse le monde veut le faire. Je pense que c'est une nouvelle méthode intéressante. So, ce matin, je parle avec...
Mathilde Linossier, je suis coordinatrice de communication et à la vie associative du Réseau Coop, la fédération des coopératives gérées par les travailleurs, les travailleuses du Québec.
Puis? Et moi, c'est Anne-Claude Tivierge et c'est moi qui ai le bonheur d'être la chargée de projet et représentante pour la table des microbrasseries Coop et de la mise en place là, des frigos Coop et des espaces Coop aussi qui s'en viennent de plus en plus.
Excellent. Écoutez, personnellement, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous avez mis en place, là, cette organisation déjà. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup en parler. Puis bien sûr, parler un petit peu de la stratégie. Après ça, on aimerait qu'on parle un peu de la stratégie des zones coop, les frigos coop. Puis bien sûr, la mise en place que j'ai vue dans les festivals. Ça, vous avez votre logo partout, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. So, en premier lieu, je ne sais pas qui de vous veut parler de ça, mais j'aimerais que vous parliez un petit peu de c'est quoi cette coopérative-là, c'est quoi cette station-là?
Ben, je peux peut-être commencer. La table des microbrasseries coop, c'est donc une initiative du réseau coop. Donc, en fait, c'est 9 microbrasseries coopératives, des coopératives de travail ou des coopératives de solidarité qui se regroupent autour de cette table et qui veulent unir leurs efforts pour mettre de l'avant l'identité coop. On sait que le monde brassicole, il y a beaucoup de microbrasseries, c'est assez compétitif. Donc là, plutôt que de travailler en silo, c'est comme, OK, comment on peut se mettre ensemble pour intercoopérer, mutualiser nos efforts et puis, c'est ça, là, se mettre ensemble, en fait, pour mettre de l'avant l'identité coop. Donc, je ne sais pas si je fais un bref historique de la table des microbrasseries, mais elle a été fondée.
Allez-y, le plus de détails, le meilleur.
Ah ben c'est parfait. En fait, elle a été fondée déjà en 2014 par 4 microbrasseries à l'époque. Elle a été autogérée pendant des années. Donc, encore une fois, pour mettre de l'avant les valeurs coop, il y a un sceau d'approbation commun qui a été créé. Donc là, sur des étiquettes de bière, vous pouvez trouver brasserie coop. Comme ça vous permet d'identifier facilement ces microbrasseries-là. Il y a une première bière collabo intercoop qui a été créée en 2014 pour le Sommet international des coopératives. Et puis, en fait, après, je dirais que quand c'est autogéré, là, c'est chaque microbrasserie qui devait mettre... Des efforts pour que ça marche. Donc après, chacune est aussi bien occupée. Donc ça a été tranquille pendant quelques années. Puis en 2020, ça a vraiment repris les activités. Il y a quelqu'un du réseau coop, en fait, qui s'est occupé de coordonner un peu plus cette table-là. Donc j'ai été cette personne-là pendant 2-3 ans, avec quelques heures par-ci, par-là. Donc on a lancé des tournées des microbrasseries coop avec des tables takeover dans les différentes micros au Québec pour un petit peu faire connaître. On a eu quelques présences médiatiques. Donc voilà, on a commencé à mettre en place vraiment des habitudes de travailler ensemble plus régulièrement. On s'est rencontrés plus régulièrement. Et en fait, là, on est vraiment très, très contents parce qu'on est enfin capable, grâce à Anne-Claude, de passer à la vitesse supérieure. Donc on a déposé un projet, en fait, en fin d'année dernière, de mutualisation auprès du ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, on a obtenu un financement pour aller plus loin. Ça nous a permis justement d'embaucher Anne-Claude qui travaille plus que quelques heures par semaine, mais qui a un bon gros 20 heures par semaine maintenant. Et donc là, je laisserai peut-être la parole à Anne-Claude, mais on sent vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure en termes de visibilité, en termes de moyens, et donc de tout ce qu'on veut mettre en place avec ce projet-là, dont les fameuses zones coop, frigo coop.
Bien, excellent. Bien, Anne-Claude, parle-moi un petit peu de ce que tu fais, toi. C'est quoi ce qui s'en vient? Comme je dis, j'aime beaucoup ce que vous avez fait déjà à les frigos puis les zones déjà.
Oui, donc je m'excuse, hein, je suis en rénovation chez moi, alors j'espère que je vais couvrir le bruit de la scie. Mon mandat, il y a 3 volets. Le premier, c'est de faire penser aux coopératives de commander de la bière coop dans leurs événements. Et ça va très bien. On pensait faire de la sensibilisation la première année, mais on a déjà des événements où on est présent. L'autre volet, c'est d'avoir une présence micro-coop dans les festivals. Puis là, tu as vu le début du déploiement de ça avec les grands oriflammes aux bières et saveurs de Chambly. Et donc, chaque microbrasserie a son oriflamme qu'il pourra utiliser en événement micro-coop, mais aussi dans chacun de ces événements. Parce que le troisième volet, puis je pense que c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, mais c'est de faire connaître aux amateurs de bières de micro que ces brasseries-là, ce sont des coopératives. Elles se distinguent de la compétition de différentes façons, mais en particulier du fait qu'elles sont des coopératives. Fait que dans les détaillants spécialisés, je ne remplace pas la force de vente que les microbrasseries ont déjà. Ils ont déjà chacun leur façon de faire. Moi, je crée des espaces supplémentaires pour qu'on identifie ces microbrasseries-là à des coopératives en espérant que interpeller le consommateur à mettre ses sous là où ça compte vraiment.
Où est-ce que tu as le premier frigo? Où est-ce qu'il est?
Alors, c'est à toutes les choses parfaites, un beau dépanneur de quartier situé dans le quartier des Shoppingus, et c'est aussi le voisin de la Shoppingus qui est une microbrasserie coopérative. Fait que c'est extraordinaire, mais presque en même temps, en fait, il y a eu un coop aussi à Saint-Constant dans un détaillant spécialisé qui s'appelle La Bière à boire. Donc ça, c'est vraiment nos 2 premiers frigos, puis j'étais vraiment contente de réussir à les mettre en place au tout début du mois d'août. Donc, on a vraiment profité de l'été. Puis là, il fallait que je me concentre sur ça pour y arriver. Et tout de suite, les 2 beaux frigos coop, puis faudrait que je t'envoie une photo à mettre. Là, au lieu de mettre nos faces, là, tu mettras notre beau frigo coop. Dans ta capsule. Là. Et ça fait vraiment un très bel effet. Le branding est invitant. Nos détaillants spécialisés sont vraiment, vraiment méticuleux, puis ils prennent soin que c'est toujours bien rempli. Donc, ça donne un bel effet et une belle vitrine pour les micro-coopératives. Fait qu'une fois ces 2 micros, les 2 frigos mis en place, là, je me suis mis à travailler à des endroits qui étaient interpellés par partager l'information, mais qui n'avaient pas l'espace ou l'électricité pour accueillir un réfrigérateur. Donc là, on va faire des bouts d'îlots ou des tablettes coopératives pour un certain temps, hein, parce qu'on s'entend que ça doit bouger tout le temps et ça sera accompagné d'une dégustation de bière de micro-coop. Donc, je vais aller à la rencontre des clients et puis pendant un mois et demi, 2 mois, on va voir, tu sais, le temps que ça roule, tant que c'est gagnant pour le détaillant et pour nous, on laisse la section en place, puis on va permettre aux gens, donc, d'identifier ces microbrasseries-là ce qu'elles sont, des coopératives de travail avec des valeurs particulières.
Moi, là, je sais, en étant une coopérative, nous autres, une coopérative de médias avec nos membres, nous autres, on a réussi à passer à travers la crise qui existe encore, bien sûr, des médias, tout ça, soit dans tous les chiffres qu'on voit dans que ce soit dans les entreprises, les coopératives, c'est quelque chose qui dure le plus longtemps, les compagnies, il y a une valeur ajoutée à ça. C'est rare qu'une coopérative tombe. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, une IGA qui vient de fermer. Mais c'est rare, ça, les coopératives femmes, les coopératives, c'est intéressant. Avant qu'on parle des frigos, tout ça, est-ce que un de vous deux pouvez parler un peu, c'est quoi la force de la structure d'avoir une coopérative comme pour une entreprise?
Mais moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que justement, le ministère de l'économie a sorti une étude en 2022, donc c'est vraiment tout récent, là, c'est l'année dernière, sur le taux de survie des coopératives et le taux de survie des coopératives, toutes formes confondues, là, travail, solidarité, etc. Il est beaucoup, il est 2 fois plus élevé, en fait, après 10 ans qu'une entreprise conventionnelle. Donc, il est comme de 45% après 10 ans versus 20, 20, 25% pour les entreprises conventionnelles. Donc, ça, c'est une étude qu'on peut retrouver en ligne. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement cette force ou la résilience du modèle. Et puis, je ne sais pas, là, les auditeurs, à quel point vous connaissez ou non le modèle coop. Donc, on peut peut-être expliquer très, très rapidement, là, mais dans une coopérative de travail, c'est une entreprise collective qui est la propriété des travailleurs. Donc, les gens qui y travaillent gèrent l'entreprise, la possèdent, la dirigent. Donc, c'est des entreprises qui sont collectives, donc qui sont démocratiques, parce que c'est quand on est un membre travailleur de la coopérative, c'est un membre égale un vote ou une voix. Donc, c'est un pouvoir qui est relié à la personne et pas au capital qu'on va investir dans l'entreprise, par exemple. Donc, le pouvoir est indépendant du capital, donc ça, c'est quand même important de le nommer. Donc, tous les membres travailleurs ont voix égale au chapitre pour participer aux décisions. Et c'est aussi un modèle qui permet une redistribution équitable des excédents si on en fait. Donc, on ne va pas, voilà, quand l'entreprise, elle va bien puis qu'elle génère des excédents, ce n'est pas deux personnes on top qui vont avoir tous les bénéfices. On va plutôt le répartir entre les personnes selon la quantité de travail qu'ils ont fourni, en fait. Donc, encore une fois, ce n'est pas le capital qu'on va récompenser, mais c'est vraiment le travail qui est fourni. Donc ça, c'est vraiment le modèle. Là, c'est très, 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 très résumé. Il y a des subtilités, mais en gros, c'est on participe aux décisions de l'entreprise, on participe à la répartition de la richesse créée quand on est dans une coopérative de travail. Donc, c'est quand même vraiment un modèle qui est mobilisateur pour les gens qui y travaillent. On est impliqué dans l'entreprise. C'est sûr qu'on pense que c'est un modèle qui peut mieux résister aux crises, parce que si on est confronté à une situation, on a une intelligence collective qui est déjà en place, puis tout le monde réfléchit ensemble, on trouve des solutions créatives et on va avoir des solutions qui sont justement plus créatives que dans des modèles plus conventionnels où on va peut-être faire d'abord licencier des gens, par exemple. Là, on travaille, c'est notre travail concret, donc on n'a aucun intérêt à faire des licenciements. C'est le dernier recours qu'on va avoir. On va trouver d'autres solutions, en fait, pour passer au travers de crises. C'est vraiment l'intelligence collective qu'on met autour de la table qui nous permet de passer au travers de ces événements-là. Tout comme si ça va bien, c'est aussi l'intelligence collective. On pense qu'on prend des meilleures décisions avec le collectif, en fait.
Est-ce que vous voyez beaucoup de monde qui vous appelle pour vous connaître un peu la structure de la coopérative pour les micro-lancers? Parce que je sais qu'il y en a une qui vient de sortir à Mauricie, qui vient de lancer sa coopérative. Mais est-ce que vous voyez beaucoup de monde qui vous appelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore très caché encore, ou c'est quelque chose que le monde ne sait pas? Est-ce que le monde vous appelle?
Il y a une douzaine de microbrasseries coop. Là, comme je vous disais, il y en a 9 qui sont autour de la table. Il y en a une douzaine en tout au Québec. Donc, c'est un modèle qui gagne à être connu. Ça, c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a quoi? Il y a à peu près, je ne veux pas me dire de bêtises, mais il y a peut-être 250, 300 microbrasseries. Il y en a 12 qui sont coopératives.
Les chiffres sont weird. Hein? Il y a tout le monde qui me dit 3-5 ans. Il y a tout le monde qui me dit 400. Je me dis tout le temps, le monde, on est proche de 400. Puis, je pense qu'on a le sens, les chiffres. Ça.
Donc, on a vraiment on gagne à être connu comme modèle. En fait, de toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on constate parce que là, c'est ça, au réseau coop, on a les microbrasseries, mais c'est vraiment toute entreprise coopérative. Donc, on voit vraiment des entreprises dans tout secteur d'activité et partout au Québec. Donc, on sait que c'est un modèle qui gagne à être connu, quel que soit le secteur d'activité. Donc, on travaille fort pour faire connaître ce modèle-là. À la table des microbrasseries, on a la chance d'avoir des ambassadeurs absolument extraordinaires. Qui eux-mêmes, parce que c'est quand même un milieu où les entreprises sont proches, se parlent beaucoup, les brasseurs se parlent beaucoup. Donc, on sait qu'on a la chance d'avoir des ambassadeurs qui sont Ben voilà, dont le modèle coop, c'est vraiment, ils sont passionnés par ce modèle-là, en plus du monde brassicole. Et donc, en fait, c'est nos meilleurs ambassadeurs pour faire connaître le modèle auprès des groupes émergents. Puis là, la microbrasserie dont tu parles en Mauricie, ben, on sait qu'elle a des liens très proches avec À l'affût, par exemple. Donc, il y a aussi, comme la Shop Angus dont parlait tantôt Anne-Claude, qui a été mentoré encore une fois par À l'affût. Donc, il y a vraiment aussi au sein des microbrasseries coop cette notion de transmettre, de partager, d'entraide, pour justement soutenir les microbrasseries qui seraient en démarrage aussi. Donc, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Je ne sais pas si tu veux compléter, Anne-Claude.
Mais moi, tu sais, je pensais à la différence que ça fait pour le consommateur d'acheter une bière de microbrasserie coop plutôt qu'une excellente autre bière là, d'une autre microbrasserie. Puis on s'entend que ce ne sont pas les plus grosses entreprises ni les entreprises les plus lucratives, nos petites brasseries artisanales. Mais c'est aussi que dans la répartition des profits, bien, on va penser à l'entreprise, à faire profiter l'entreprise. Puis l'entreprise, bien, elle s'inscrit aussi dans sa communauté. Donc souvent, c'est des organismes autour qui profitent que l'entreprise va bien. Donc, puis on met en valeur des produits locaux. Donc, il y a vraiment un microcosme là, qui se crée autour de la coopérative dont toute la communauté peut profiter. Et pour nos régions, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça, ça fait des gens qui sont impliqués, puis qui ont envie de redonner, puis qui vont avoir le souci là, des produits locaux, de l'environnement. C'est vraiment toutes des belles valeurs à promouvoir puis à encourager nos consommateurs à adopter.
Bien, excellent. Oui. Moi, c'est Anne-Claude, excuse-moi. Ce que je voulais parler vraiment de la stratégie des frigos, tout ça, parce que comprendre un petit peu là-dessus. C'est sûr que à travers ce qui se passe, comme on parlait avant avant l'entrevue, on vit des gros défis dans l'industrie brassicole. Il y a plein de défis, il y a des problèmes de mettre en place de l'espace tablette, tout ça. C'est pour ça que je suis comme vraiment surpris qu'ils ont voulu avoir un frigo, parce que l'espace tablette est là-dessus. Est-ce que la stratégie d'avoir un frigo comme dans les dépanneurs, des détaillants spécialisés, comment vous faites pour rentrer ça là-dedans? Puis comment ça? Est-ce que vous avez déjà des chiffres de vente pour le monde comprendre un petit peu comment ça va?
Mais je pense que l'idée d'entrer des frigos dans les détaillants spécialisés est venue naturellement. Parce que de la bière au froid, ça se vend plus rapidement que de la bière tablette. Mais les frigos, il y a un coût à ça. Puis donc, les détaillants spécialisés, c'est souvent de petites entreprises qui, elles aussi, font ça vraiment par passion. Donc, on pensait que c'était la solution. On va leur offrir un frigo. Fait que nos bières vont se vendre plus rapidement. Puis tout le monde va être content. Mais fait que ça a été le cas là, pour les deux premiers frigos. On s'est rendu compte que ça n'allait pas convenir à tous les détaillants pour des raisons d'espace. Ce que je ressens aussi chez les microbrasseries, c'est un essoufflement dans le sens où toutes les ressources à l'intérieur de la microbrasserie sont super sollicitées. Fait que l'idée de mutualiser une ressource qui met en place ces espaces-là pour que chacune des microbrasseries puisse en profiter, mais c'était ça aussi là, l'idée de ce projet-là, c'était qu'une personne travaille pour 8-9 microbrasseries à mettre en place des choses qui vont profiter à plus qu'une seule brasserie, parce que les brasseries coop ont des capacités différentes. Ce n'est pas toutes les brasseries qui sont capables de mettre 8-9 vendeurs sur la route puis pour entretenir leurs espaces, parce que ce n'est pas tout de vendre la bière. Il faut qu'elle soit bien placée, il faut qu'elle soit fraîche. Il faut retirer les produits qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas fonctionné. Il faut animer des dégustations aussi. Il faut donner le goût aux clients de s'intéresser à ces 20, 60 bières en particulier parmi une offre qui est toujours plus grande. Puis il y a des nouveautés à chaque jour. Donc, c'était ça. C'était de mettre en place, de profiter d'une ressource pour plusieurs microbrasseries. Puis, c'est pas, tu sais, sur les tablettes, malgré la belle confrérie qu'ont les microbrasseries entre elles, entre brasseurs, sur les tablettes, bien, veux pas, on est tous compétiteurs. Fait que de pouvoir s'unir au nom de l'intercoopération, bien, ça permettait de travailler ensemble. ce qui est vraiment... on travaille toujours mieux ensemble parce qu'on dans le fond, c'est 8 compétiteurs de moins puisqu'on les met en valeur ensemble.
Est-ce que vous avez déjà des chiffres déjà où les dépanneurs vont donner des ventes? Est-ce que le monde aime mieux ça, aller chercher? Je sais que le monde aime beaucoup avoir la facilité d'aller quelque part où ce qu'il veut. C'est le côté, c'est mes valeurs, c'est ma ville, c'est ma région. Le monde aime ça, la simplicité. Est-ce que la stratégie là, de faire les frigos, est-ce que le monde va aimer ça? Est-ce que le monde, tu vois, les dépanneurs vont dire oui, il y a des plus de ventes à cause que le monde sache dans quoi je m'embarque?
Mais je pense que ça, c'est un petit peu tôt pour voir la différence au niveau des ventes. Puis moi, je crois qu'on va voir davantage, on va pouvoir évaluer davantage le travail fait par la table des microbrasseries en termes de nombre de produits par microbrasserie chez un détaillant.
Okay.
Parce que, tu sais, le détaillant, il dit, « Ah, ben moi, pour telle microbrasserie, c'est 10 espaces que j'ai. » Choisis ce que tu veux, mais c'est 10 espaces. Puis, tu sais, ça va être différent pour chaque table de pour chaque microbrasserie. Ça dépend des relations qu'ils ont avec eux. Ça dépend du goût de leurs clients pour ces microbrasseries-là. Mais c'est certain que d'avoir une personne qui passe régulièrement s'occuper des produits, ça fait en sorte qu'on peut souvent commander davantage de produits. Puis des fois, c'est entre être présent ou pas présent du tout. Donc, moi, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai rencontré les détaillants spécialisés en premier qu'on a identifiés, parce que c'est sûr que d'avoir un conseiller sur le plancher, ça permet de véhiculer un message davantage que dans les épiceries, quoique il y a des épiceries qui prennent vraiment soin de leur section de bière de microbrasserie.
C'est rare,
Mais on a choisi de commencer par les détaillants spécialisés. Donc, et c'est déjà le cas, là. Il y a des détaillants qui avaient 5 micros sur 8. Donc, j'ai fait des ouvertures de compte.
Nice.
J'ai créé un espace pour 3 microbrasseries. Et c'est comme ça pour elles. Mais d'autres microbrasseries, il y avait juste 4 bières ou ils ne savaient pas trop quel produit commander. Bien là, on a jasé des produits. Donc, je pense qu'ils vont augmenter leur espace dans chaque détaillant spécialisé, en plus d'y être s'ils n'y étaient pas déjà. Fait que c'est gagnant pour toutes les microbrasseries.
Et puis, si je peux rebondir sur ce que tu dis, justement, là, quand j'ai fait mon tour à toutes les choses parfaites, là, le dépanneur où on a le frigo coop, ben justement, là, la propriétaire, elle me partageait qu'elle a des clients qui sont vraiment super contents de trouver des produits qu'on ne trouve pas normalement à Montréal parce que c'est des microbrasseries qui, d'habitude, n'ont pas de point de vente ou qui restent, mettons, des microbrasseries du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont distribuées très localement là-bas, que ces personnes-là ont découvertes en vacances, puis c'était des produits extraordinaires. Puis là, ils les retrouvent dans le frigo parce que c'est un frigo coop et parce que, comme l'a mentionné Anne-Claude, elle a comme créer ces nouveaux espaces pour ces microbrasseries-là, qu'elles aient un point de vente. Donc ça, les clients sont vraiment… Il y a des très bons retours de clients qui sont contents de trouver ces produits qu'ils ne pensaient pas trouver, en fait.
Est-ce que vous allez utiliser le réseau, tu sais, comme le réseau des coopératives à travers le Québec, c'est que ce soit… Bien sûr, il y a des restaurants, il y a plein de compagnies différentes là-dessus, il y a des campings coopératives, il y a plein d'affaires. Est-ce que vous allez commencer à mettre en place un système de vente en dehors des dépanneurs? Bien, c'est ça, ce réseau-là pour aller vendre vos produits là-dedans?
Ben, ça, c'est le travail qu'on fait avec Anne-Claude pour justement faire connaître la table des microbrasseries au sein de l'écosystème, donc des entreprises d'économie sociale, en fait, du Québec. Donc là, on travaille vraiment fort pour développer des partenariats. Puis effectivement, là, quand on a des coopératives qui, de toute façon, sont des endroits de villégiature, de restauration, qui ont une offre de bière, ben, c'est de dire, hey, vous êtes vous-même une coopérative, donc là, pourquoi vous vendez pas, vous, de la bière coop? Puis là, Anne-Claude, je pense que tu as déjà un bon exemple avec la semaine prochaine, le sommet, pas la semaine prochaine, mais en tout cas fin septembre, un traiteur coop d'université qui souhaite maintenant intégrer des bières coop de façon plus régulière. Donc, c'est vraiment un travail de sensibilisation qu'on fait. Puis avant, on n'avait pas nécessairement les ressources pour pouvoir le faire, mais maintenant, Anne-Claude est là, puis vraiment, elle travaille fort fort là-dessus. On a déjà des très belles ouvertures depuis qu'elle a commencé. Là.
Oui, c'est vraiment, vraiment le fun là, de voir que dès cette année, on a des belles occasions de servir des bières coop dans des événements coop. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, un établissement va avoir une entente d'exclusivité avec une brasserie qui lui offre des services ou des redevances en retour. Donc, on s'attendait à ce que la première année soit dédiée, à, dans le fond, à rencontrer les gens qui organisent des événements dans le mouvement coopératif pour déjà les sensibiliser. Lorsque vous pensez faire un événement, pensez à demander si vous pouvez servir de la bière coop, quel est le permis que l'établissement détient, quelle est l'ouverture, parce que sur tous les permis de réunion, on peut le faire, même sur des permis de restaurant, on peut le faire, tant que l'établissement n'a pas une entente d'exclusivité. Puis même à ça, tu sais, si c'est prévu à l'avance, on peut faire une entente pour un événement en particulier avec un frais de bouchon, là, un frais qu'on paie par personne pour que sur un événement donné, l'hôte accepte de ne pas vendre les bières qui pour lesquelles il y a déjà une entente. Mais tu sais, donc il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire, puis pour préparer, mais surtout pour accompagner, parce que faire une commande de bière de plusieurs microbrasseries pour en faire la démonstration,
c'est la question que je me posais, hein.
C'est ça, il faut jongler avec les distributions, les disponibilités de chacun, puis ben ils sont tombés sur une personne qui aime ça, faire ça. Fait que, hier soir, je buvais des bières pour confirmer des sélections, des permis. Ça arrive encore que je me trompe entre les brasseries artisanales puis les brasseries industrielles, mais voilà. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis là, ben c'est ça. Dans deux semaines, le Global Innovative Cooperative Summit qui est reçu au HEC va servir à son cocktail d'ouverture une sélection de 4 microbrasseries coop. C'est un 350 personnes. Les événements, petits événements qui vont suivre là, dans la semaine vont bénéficier aussi de cette sélection-là. Puis on va être sur place pour aider les gens à servir. Et le traiteur en c'est place. Et c'est une coopérative.
Il y a tellement de liens que tu peux le faire. Moi, j'ai une question à savoir. Est-ce que le début de vos zones de coopérative puis vos frigos, est-ce que c'est le début d'une structure en mise en place de vente et de représentation? Est-ce que vous voulez aller dans ce job-là? Parce que l'affaire, c'est que, comme on s'est déjà parlé de ça, il manque du staff partout. Il manque des vendeurs, il manque du marketing, il manque plein de choses. Honnêtement, il manque de choses. Puis c'est sûr que des entreprises comme vous avez les 9 coopératives, en espérant que les 3 autres embarquent avec vous autres. Quelque chose comme vous autres, est-ce que vous pouvez à long terme penser à ça, mettre en place, disons, une structure de vente, que ça vous pouvez vous aider une partie de la vente pour vous grossir, parce que comme tu dis, un vendeur ne peut pas faire tout. Je connais un des vendeurs de l'affût qui fait tout Montréal puis Laval, puis c'est beaucoup de job déjà lui, tu sais. Est-ce que quelqu'un qui Angus qui a besoin de vendeurs sur la route, est-ce qu'à long terme, vous pensez à structurer ou offrir ce service-là de vente, de distribution, de marketing, de création d'objets avec une coopérative, let's go, whatever, qu'est-ce qu'il y en a de ça? Est-ce que vous pensez à long terme, c'est le début d'une structure qui peut être intéressante?
Mais je pense que dans un premier temps, là, c'est de mettre en place des nouveaux espaces. Puis c'est ça qui va aider les microbrasseries. Parce qu'en ce moment, je pense que chacune préfère rester avec sa structure de vente.
Mais c'est nouveau.
Donc, il faut créer quelque chose. Et puis, c'est certain que pour les plus petites micros qui n'ont pas de représentants sur la route, bien, forcément, je deviens leur représentant, là. Mais ceux qu'il y a des représentants qui passent en parallèle aussi, mais on travaille ensemble, puis ils sont contents d'avoir des espaces. Encore hier, j'étais dans une épicerie où le responsable qui aime la relation qu'on a développée me dit « Ah, ben tiens, j'ai une tablette dans ma chambre froide, tu peux mettre les micros que tu veux dedans. » Ben alors, j'ai créé une tablette coop on the spot. Puis là, ben, j'ai communiqué à toutes les microbrasseries. Ben, la prochaine fois, sachez que vous avez 2-3 espaces maintenant au frigo en plus de votre espace tablette. Donc, c'est des liens qui se créent. Puis, à force de travail agréable avec les détaillants, ben, ils nous laissent de plus en plus d'espace. Fait que je pense que dans un premier temps, c'est de permettre aux microbrasseries d'en bénéficier. Mais c'est bien certain que s'ils aiment ça puis qu'elles souhaitent vraiment se réunir pour faire de la représentation, ce serait tellement plus efficace. Mais ça fait beaucoup de choses qu'il faut arrimer. La distribution, l'envoi des disponibilités. Mais ce n'est pas impossible.
Ça la place, tout le monde découvre.
Oui.
Quand on a déposé le projet, là, justement, pour obtenir le financement, c'est un projet pilote de 2 ans, là, jusqu'à la fin 2024. Mais il y avait quand même cette volonté de comment on peut rendre ce projet pérenne, comment on peut le déployer à plus grande échelle. Donc, comme le mentionne Anne-Claude, c'est beaucoup de choses qu'on doit arrimer. Puis, comme c'est nouveau, on le construit. Mais on a cette volonté de, pendant ces 2 années où on construit, bah, il y a quand même cette idée de, on souhaite le rendre pérenne, en fait, dans le temps. Puis, qu'effectivement, le structurer pour qu'il puisse durer, puis se déployer à plus grande échelle. Là. Et ça, c'est très clair aussi pour toutes les microbrasseries participantes au projet, parce que c'est le projet, il a été déposé conjointement avec les microbrasseries coop qui font partie de la table.
Est-ce que vous pensez à faire des affaires groupées pour aider les microbrasseries participantes à descendre un peu les prix des fournisseurs, des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez à long terme?
Je ne sais pas si ça a été discuté, ça ne se fait pas en ce moment. Je pense que la priorité, c'était vraiment la mise en marché des produits, l'espace tablette qui est le nerf de la guerre. Là,
Mais c'est number one, c'est sûr. Ça,
ouais.
Ça t'en vient. Est-ce que c'est uniquement, mais aucun bar coop que vous allez mettre du fût, rien comme ça pour l'instant? Il n'y a pas de section de bar pour l'instant?
Ah, faudrait que tu me les nommes, puis je vais aller les voir avec plaisir. Je les connais pas. Mais je peux dire que, évidemment, le Pop Brouhaha, qui a une affinité avec ma brasserie, ce sont eux qui vont recevoir la conquête des lignes coop pendant la semaine de la coopérative. Eux, ça va être le 14 et 15 octobre. Puis, on a identifié un autre bar à Québec qui n'est pas une coopérative, mais qui partage nos valeurs. Donc, le Néligan, qui, la fin de semaine suivante, va recevoir une conquête des lignes. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, ça va pouvoir, on va pouvoir offrir une belle visibilité aux microbrasseries coop. Puis, c'est vraiment le fun pour les bars aussi, parce que tout d'un coup, ils ont une belle offre pour leur clientèle qui est variée, qui est quand même de plusieurs microbrasseries.
Puis, est-ce que vous allez aussi aller voir le monde qui ont les associations des coopératives ou du monde qui sont responsables qui s'engagent, du monde qui sont des CSN, du monde comme ça. Du monde qui sont comme ça, sont ouverts à des produits comme ça. Eux autres, ils ont des bars aussi, ils ont des cafétérias, tout ça. Est-ce que c'est une place aussi intéressante ou pour l'instant, c'est uniquement les coopératives?
Non, mais tranquillement, tu sais, on remonte le système, le monde de l'économie sociale. On commence par les partenaires les plus proches de Réseau Coop, comme le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, où on va participer à un cocktail de lancement là, la semaine prochaine. Puis c'est grâce à eux qu'on a eu l'invitation à présenter nos bières au HEC pour le sommet de la coopération. Donc, vraiment, ça va vraiment bien. Puis, il n'y a pas de fin à ça, c'est ça. T'sais, on peut aller très, 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 très loin dans le milieu. Puis, quand je vais avoir toute une équipe, là, on va être en feu. La bière de micro-coop,
plus de monde. Il vous manquait au moins 5-6 personnes pour développer tout ça. Parce que, comme vous savez, on est dans un défi de vente, ces jours-ci. Puis, pas de production, mais c'est vraiment plus de la vente qu'on a ces jours-ci. Puis, mettre en place ça. C'est sûr que, pour nous parler un petit peu de la zone, tu as posé une autre question sur peut-être ouvrir votre porte à d'autres produits, mais concernant les zones coopératives, si vous avez déjà commencé à mettre en place dans le festival Chambly, vous avez déjà informé le monde où vous étiez, tout ça. C'est quoi les zones coop?
Donc, les zones coop, c'est tout simplement dans un endroit où ils ne pouvaient pas accueillir un frigo coop. On va faire un étalage où rassembler et identifier les bières de nos microbrasseries, membres de la table des microbrasseries.
Si vous avez votre logo là-dessus, vous avez tout le branding qui va avec ça. Est-ce que comme vous allez dans la zone coop, est-ce que vous allez avoir des flyers qui expliquent un peu ce qu'est la coopérative? Est-ce que vous allez avoir un coup de QR? Est-ce que le monde peut checker ce qui se passe? C'est quoi l'information que vous donnez aux gens? Parce que c'est sûr qu'il y a les amateurs de bière qui veulent goûter à une nouvelle bière, mais aussi il y a les T'sais, on a 120 permis qui s'en viennent, est-ce qu'il y a du monde là-dedans qui voit ça, il voit une possibilité de ça avec vous autres, pour avoir des informations pour devenir membre, quoi, pour structurer leur business comme coopérative?
Oui, bien, on travaille nos trois phrases clés là, qu'on veut vraiment utiliser pour pas juste identifier, mais éduquer le consommateur pour parce que oui, les coopératives, c'est vraiment pas tout le monde qui connaît c'est quoi là.
Ben, nous autres, écoutez, nous autres, qu'on a lancé une coopérative de médias, ça a pris, je n'y est pas, ça a pris un an et demi pour que la personne comprenne c'est quoi une coopérative, c'est quoi comment les médias font de l'argent. Ça a été beaucoup très compliqué, ça. Déjà, ça a été intéressant.
Oui, mais ça, j'en profite pour, tu sais, comme s'il y a des personnes qui nous écoutent puis qui sont intéressées par le modèle coop, là. Nous, on a, au réseau coop, on a un programme de démarrage de coopérative qui s'appelle le Parcours Coop. C'est un programme qui dure 6 mois. On a chaque semaine, pendant 13 semaines, un cours de 3 heures avec des coachs spécialisés en finance, en gouvernance, en ressources humaines, en marketing. Donc, les groupes montent leur plan d'affaires complet qui est présenté devant des bailleurs de fonds à l'issue des 6 mois. Donc, tu sais, comme en 6 mois, leur coopérative, elle est démarrée là. Puis, donc ça, on les accompagne vraiment. Puis, c'est que des personnes qui connaissent parfaitement bien le modèle coopératif pour la coop de travail, en tout cas. Donc, c'est un programme qui est très reconnu aussi par tous nos partenaires, puis qui contribue à l'augmentation du taux de survie des coopératives de travail dont on parlait tout à l'heure là, dans l'étude du ministère. Et puis, on devrait être présent aussi au congrès de l'AMBQ au mois de novembre pour parler de transfert d'entreprise. Et que des entreprises existantes où les propriétaires, les brasseurs, etc., s'ils sont propriétaires, mais que c'est comme ça devient lourd à gérer une entreprise privée, ils pourraient devenir une coop tout en restant dans l'entreprise. Donc ça, c'est comme quelque chose qu'on va venir présenter aussi. C'est possible de le faire. S'il y a des gens qui nous écoutent. Et là, on a aussi quelqu'un qui est spécialisé en transfert d'entreprise chez nous, puis qui accompagne les groupes qui veulent faire qui veulent faire cette transition-là. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles et qui peuvent être explorées aussi si on estime que le modèle coop répond vraiment à nos valeurs, à nos façons de faire et qu'on souhaite aller vers ça.
Puis moi, ce que je vois là, dans le milieu de la microbrasserie, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries qui ouvrent. Puis souvent, ce sont des brasseurs qui étaient chez une autre microbrasserie qui décident d'ouvrir leur propre microbrasserie parce qu'ils ont leurs idées puis leurs créations qu'ils veulent mettre en place dans leurs équipements. Puis tu sais, je comprends tout ça. Mais moi, je me demande, est-ce qu'un modèle coopératif ne pourrait pas, au contraire, garder davantage à l'intérieur de la microbrasserie toutes ces ressources-là, parce que là aussi, c'est une question de ressources. Il manque de ressources pour brasser la bière et les bons brasseurs quittent pour pouvoir réaliser leur propre projet, alors que peut-être qu'à l'intérieur d'une coopérative, ils pourraient se réaliser tout autant.
Mais ça, la question que je me posais, comme si vous pouvez me fournir à tout ce monde-là, déjà le canevas de travail, déjà que ce soit la vente, la production, des affaires comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est un peu intéressé à mettre en place la structure des coopératives, bien sûr. C'était l'affaire que ça. Comme vous savez, il y a beaucoup de brasseries, ils se lancent dans d'autres produits. Comme vous savez, que ce soit le cid, bien sûr. Le cid, le monde qui se lance dans le café, c'est la gagne de la temps d'une pinte, ils ont du café, eux autres, tout ça. Est-ce que vous allez uniquement utiliser la bière ou si vous avez tous ces produits extra de côté, vous allez aussi travailler avec eux autres?
Ben, je pense pas qu'on est fermé à quoi que ce soit. Là. Déjà, dans les microbrasseries qu'on représente, il y a des produits sans alcool. Et puis là, mais là, c'est à la discrétion des détaillants. Il y a des détaillants qui aiment les inclure dans la section coop parce que c'est des produits coop, mais il y a des détaillants qui préfèrent les inclure dans leur section sans alcool parce que c'est là que leurs clients les recherchent. Donc, tout est possible. Là. Okay. Puis ça peut être aux deux endroits aussi, là. Mais puis ça pourrait être des produits connexes. Nous, ce qu'on fait, c'est créer des espaces, créer des occasions. Après ça, la microbrasserie peut les saisir puis les entretenir.
Excellent. Est-ce que vous pensez à long terme? C'est sûr qu'on ne parle pas tout de suite, peut-être dans 5 ans, essayer d'intégrer d'autres produits, que ce soit comme le café, c'est quelque chose de très proche avec qu'est-ce qui se passe, le cidre, le whisky, tout le spiritueux qui s'en vient. Je sais qu'il y a une coopérative de spiritueux qui doit se lancer dans pas longtemps, si on est en train de penser à cette structure-là. Est-ce qu'à long terme, c'est aller chercher d'autres produits connexes avec la microbrasserie?
Bah, la beauté du réseau Coop, c'est qu'on regroupe toutes les coopératives de travail dans tous les secteurs d'activité du Québec. Donc, à partir du moment où elles ont la structure Coop de travail ou Coop de solidarité avec une présence significative des travailleurs dans la gestion de l'entreprise, ces entreprises-là peuvent intégrer le réseau Coop. Et après, là, effectivement, Anne-Claude, elle a pour mission de propulser la table des microbrasseries du Québec. Mais si, comme elle l'a si bien dit, si on voit qu'il y a d'autres besoins qui émergent et qui pourraient bénéficier de cette mutualisation-là qui a été mise en place pour les microbrasseries, mais à ce moment-là, on est très ouvert justement à aller explorer ces avenues-là, puis à les développer aussi, parce que ça, c'est notre rôle de fédération. Nous, on est une fédération des coopératives de travail, et quand on voit des opportunités de se regrouper, on le fait. Je vous donne d'autres exemples, mais là, on travaille aussi avec des partenaires. On a mentionné tout à l'heure le CQCM, Conseil québécois de la coopération de la mutualité, avec la CDRQ, on travaille sur le regroupement des fermes coopératives. Là, on est en train de travailler sur un regroupement de coopératives dans le domaine des communications, des médias. Donc, quand on voit des opportunités comme ça où les gens ont besoin de se rassembler dans un secteur spécifique parce qu'il y a des défis spécifiques qui sont vraiment à propos de ce secteur-là, là, pour les microbrasseries ou les autres produits, on va parler de la distribution, des forces de vente, etc. Ça, c'est notre rôle de fédération, de faciliter ces regroupements-là, puis cette mutualisation-là. Donc, je vous dirais oui, en fait. On va travailler là-dessus. Là.
Anne-Claude, c'est pourquoi un festival de Coop, de brasserie Coop?
Ben, pourquoi être présent en festival sous la bannière brasserie Coop? Ben, pour les mêmes raisons.
Quand vous allez lancer votre festival?
Quand on va voir notre festival?
Oui, parce que...
Oh, demain matin!
Vous savez, de plus en plus de brasseries lancent leur propre mini-événement. J'ai déjà parlé quelques fois avec vos membres, tu sais, de créer des mini moments, tu sais, où est-ce qu'on amène tous les coopératives quelque part. Est-ce que c'est quelque chose à long terme, c'est intéressant de mettre en place des mini-festivals? Bien sûr, vous êtes déjà dans les zones quoi, bien sûr, mais des mini-festivals à travers le Québec, dans les événements coopératifs, des environnements agricoles, ou même en face de la brasserie pour être intéressant pour vous autres.
Mais pourquoi pas? Mais dans un premier temps, je pense qu'on répond à un sentiment exprimé de la part des microbrasseries qui sont essoufflées et que les festivals, dans la structure actuelle, dans leur structure actuelle, demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières et avec un impact, un retour qui est plus aussi clair qu'il l'était dans le passé. Donc, on est à la recherche de festivals, de plus petits festivals, souvent organisés par des microbrasseries, et où on veut proposer d'arriver sous la bannière micro-coop. Comme ça, pour les micro-coop, c'est sûr qu'ils vont avoir moins de bières de présenter, mais ils vont avoir aussi à déployer moins de ressources qu'il faut loger, nourrir, et puis se partager, dans le fond, le plaisir d'aller en représentation dans un festival. Donc, en 2024, c'est au moins 3 festivals où on veut être présent en tant que brasserie coop. Et il n'est pas. Si on en trouve plus, puis que les microbrasseries coop sont en barque, puis qu'on le fait à des coûts qui sont possibles, justement, parce qu'on sépare les coûts, puis on sépare les ressources. Puis c'est tout la préparation aussi là, du kiosque lui-même. Il faut le préparer, il faut le nettoyer quand il revient à la brasserie. Donc, si on peut réussir à partager tout ça entre les microbrasseries, on s'est donné pour objectif d'en avoir 3, mais c'est comme pour les frigos coop. On devait avoir 3 frigos coop, puis là, ben d'ici Noël, ça devrait être une douzaine de zones coop qu'on va avoir mis en place. Donc, tu sais, on a des objectifs, on avance, puis si, s'il y a plus de retombées, on va juste les accueillir à bras ouverts.
Et c'est ça l'affaire, que moi, je pense que votre maintenant, vous bougez beaucoup, vous avez beaucoup d'événements qui s'en viennent. Le monde, bien sûr, va être excité d'avoir quelque chose de nouveau, parce que c'est ça la beauté avec la microbrasserie des nouveaux. Vous avez des nouveaux marchés qui s'en viennent. Il y a, comme dit, c'est un canvas vierge, vous pouvez faire plein d'affaires avec ça. Qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne plus? Est-ce que vous avez le staff pour ça? Est-ce que vous avez le staff de mettre en place demain matin si vous avez 50 frigos?
Ce serait le fun. Mais je pense qu'on va composer là, au fur et à mesure. On va toujours informer nos membres de l'évolution puis de la tournure que ça prend. Puis ensuite, demander du financement puis de la contribution des microbrasseries, forcément. Puis peut-être que ce ne sera pas si compliqué que ça. Dans le fond, peut-être que ce sera des ressources à l'intérieur des microbrasseries qui deviendront disponibles pour se déployer davantage. Puis là, ça fonctionnera au lieu d'avoir chacun... 6-7 personnes dédiées à la viande, à la vente, mais ça sera une grande équipe là, de 12 personnes, mais ça ne sera pas de même après.
Pour les festivals, est-ce que vous avez créé un petit peu la section qu'est-ce que Bocquet a fait déjà, le distributeur Bocquet, où ils ont une tente, deux brasseries, puis que ceux autres s'occupent de ça, est-ce que vous pensez faire quelque chose comme ça, ou c'est vraiment des tentes séparées par les microbrasseries, ou ça va être une tente coopérative, où est-ce qu'il y a 2-3 fûts, 20 fûts, 40 fûts, puis le monde s'occupe de ça? Que ça va être quelque chose comme ça?
Oui, ça peut ressembler au kiosque de Bocquet. Donc, un seul kiosque où ouais. On va retrouver une offre commune des microbrasseries coop, mais les personnes qui vont servir la bière, mais ça va être les personnes des microbrasseries. Donc, il va vraiment pouvoir y avoir un échange au sujet d'une des microbrasseries. Et c'est certain qu'au lieu d'avoir... 10-12 produits à offrir. Chaque brasserie va en avoir 2-3. Mais si on travaille tous ensemble, on va avoir une vingtaine de produits qu'on offre aux gens, chacun dans leur palette. Puis là, ben, ça va faire la promotion de la force des brasseries coop réunies ensemble.
Bien, excellent. C'est quoi vous pensez le plus gros défi qui existe, à part bien sûr le staff, les ventes, tout ça, que vous avez parlé avec le monde? C'est quoi le plus gros défi que vous avez vu, que vous êtes de plus en plus en train de mettre en place pour aider les microbrasseries?
Ben moi, je pense que c'est la question des ressources humaines. Puis, tu sais, même moi, avec tout mon enthousiasme puis mon bon vouloir, là, puis j'aime vraiment ce que je fais, il reste que je suis limitée à un certain nombre d'heures par semaine parce que c'est le financement qu'on a réussi à obtenir. Mmh. Puis c'était la capacité aussi des microbrasseries de contribuer, mais c'est un projet. Mais là, tu sais, ils ne savaient pas comment ça allait tourner. Donc, à la lumière de qu'est-ce qu'on va avoir réussi à faire, il va falloir, d'une part, demander aux micro-coop, est-ce que vous êtes prêts à bonifier ce mandat-là? Est-ce que vous voulez qu'on en fasse plus? Est-ce que vous êtes prêts à contribuer davantage? Parce que dans toute demande de financement, il y a une partie qui doit être une contribution des membres. Donc, tu sais, je pense qu'on... Mais c'est ça, le défi, là, c'est d'arrêter les réalisations un moment pour pouvoir planifier pour plus tard.
En dehors des brasseurs mettent de l'argent, tu sais, les coopératives des brasseurs mettent de l'argent, puis bien sûr, le gouvernement, tout ça, votre réseau, tout ça, est-ce qu'il peut y avoir d'autres financements d'ailleurs qui existent? Tu sais, il y a quand même des banques coopératives qui existent à Vancouver, qui financent beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a d'autres places qu'on peut laisser sur de l'investissement pour avancer ce projet-là?
Ben ça c'est une bonne question, puis je crois quand même que l'objectif à terme du projet pilote, c'est d'être le plus autonome possible financièrement, de générer le plus de revenus autonomes possible. Donc là, c'est à nous d'explorer un petit peu, de trouver des solutions. Est-ce que ça va passer par la vente de bière? Est-ce que ça va passer par des commandites? Est-ce que ça va passer par d'autres? On veut être le moins dépendant possible de financement à terme, parce que l'objectif, c'est quand même d'être indépendant financièrement, autonome. Donc, effectivement, c'est des avenues. On le sait, quand on a déposé le projet, ça faisait partie justement des questionnements sur pour la suite. Il va falloir trouver des financements. On a la chance d'avoir un écosystème en économie sociale qui est quand même très performant à ce niveau-là. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités en termes de, voilà, de prêts, en termes de, enfin, de toutes sortes de financements qui existent quand même. Là, il y a la Caisse d'économie solidaire de Desjardins, Desjardins Capital, Investissement Québec, le RISC, qui est le réseau d'investissement social du Québec. Donc, on a beaucoup de partenaires financiers qui sont là, qui peuvent soutenir de tels projets. Donc là, je dirais que voilà, c'est encore un peu tôt pour dire comment exactement on va continuer la suite du financement, mais effectivement, ça fait partie des questionnements qu'on a.
Ouais. C'est ça, parce que pour être en mesure de demander aux membres de la table du micro,
il faut des résultats.
Est-ce que vous êtes prêt à continuer à investir davantage? Ça prenait des résultats. Donc, c'est ça que je fais avec grand plaisir.
Ben c'est ça, c'est mon cerveau de marketing et de vente qui va tout le temps un peu trop loin. Mais ben, c'est la vie, ça. Écoute, Mathilde, Anne-Claude, merci beaucoup de votre temps. Je pense que c'est, oui, il y a un gros futur dans votre, ce que vous faites. Comme je dis, moi, j'ai beaucoup. Ça fait longtemps que je gosse le monde pour qu'ils fassent des sections dans les places, qu'ils mettent en place une stratégie où est-ce que le monde peut trouver ça. Puis je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Ça, merci encore pour votre temps. Bien, hâte de voir la suite de ça, bien sûr, voir les 12 frigos, peut-être des 50 frigos qui s'en viennent, la zone, les festivals, les mythes, il y a plein de choses à faire là-dessus. So, merci beaucoup pour votre temps. Puis, continuez à nous parler de ce qui s'en vient, tout ça. Bien sûr, on veut voir, bien sûr, Mathilde, envoie un courriel ou un lien sur les cours pour les gens qui veulent se lancer en microbrasserie, en coopérative pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce que je pense que c'est un modèle qui fonctionne bien, c'est un modèle qui, le Québec, on a une des plus grosses coopératives avec des jardins et tout ça. C'est quelque chose que de longtemps qu'on fait là-dessus. Je pense que c'était ça.
Merci beaucoup, Leonardo, pour l'invitation. Puis, permets-moi de passer l'invitation aux auditeurs pour les prochains événements dans la semaine de la coopération. Le 14 octobre au Brouhaha, Rosemont à Montréal. Le 18 octobre, là, on va faire le lancement du premier micro-coop à toutes les choses parfaites. Et tu es le bienvenu, évidemment. Puis, à Québec, on a le Néligan qui reçoit aussi une conquête des lignes coop là, le 21 septembre, si je me rappelle bien, le samedi.
Excellent. Puis, on mettra toute l'information en dessous de le balado, tout ça, pour mettre ça en ligne. Ça, merci beaucoup encore, puis à la prochaine.
Merci beaucoup.